Sans Contrôle, le podcast 100% excellente.
Loco Pedros, Pedros Loco, c'est fabuleux.
Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
Autour de la table...
Wouh
yeah. Allez, Philippe.
David Filippo, West France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan.
Oula. J'adore.
Philippe Audouin, RTL. Un podcast présenté par... Simon Rongoat, It West.
Salut les amis, salut Pierre Arnaud Barre.
Salut Simon, bonjour tout le monde.
Pab, victime du changement d'horaire samedi dernier, qui n'a pu assister à la Beaujoire à la Purge entre Nantais et Lavallois. Mmh. Finalement, tu remercies Bean, non, un petit peu?
Bah ouais, bah, j'ai quand même vu le match, hein, du coup, ouais. Je l'ai vu à la télé, ouais. Je pense que j'ai pas loupé grand chose.
Ouais. Ouais, si, 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 on s'est caillé, vraiment, il faisait très très froid à la Beaujoire. Salut Philippe Audouin.
Salut Simon.
Ça te plaît le New Morricone, le flingueur?
J'ai pas compris, je fais pas le lien en fait.
Il était une fois dans l'Ouest.
Ben oui, bien sûr.
Bien sûr.
L'homme de l'Ouest.
C'est vrai que je parcours l'Ouest depuis... Ouyaï, je vais prendre un coup de vieux depuis plus de 25 ans.
Philippe qui connaît si bien l'Ouest qu'en zone mixte, après le match, il m'a dit « C'est qui ce Lavallois ?» C'est qui,
c'est,
qui...
C'est vrai que Laval, ça fait longtemps que je suis pas allé.
C'est ça. Bon, rassure-toi, on va pas beaucoup en parler du stade Lavallois, on va surtout parler des Canaries, Philippe, et je les connaissais pas plus que toi. On va être honnête. Salut David Filippo.
Salut.
On a reçu David de multiples retours hyper touchants après la publication du podcast sur la vie d'Emiliano Sala. Grand moment d'émotion collective. Merci pour tous vos messages. Et faites-le écouter autour de vous, parce que plus on a d'écoute, et il y en a déjà des milliers, plus ça donnera envie à tout le monde, et nos rédactions notamment, eh bien qu'on en produise un autre.
On en fera peut-être un autre.
Et qu'on raconte d'autres histoires. Ouais. C'est une bonne idée. Bravo à Nico Palois aussi pour le geste avant le match. C'était un bel hommage de sa part. Il a eu le courage de le faire 5 ans après. Et puis à la Beaujoire, à la Tribune Noire, pour ses chants répétés qui ont duré plus longtemps que d'habitude. Allez, salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute.
C'est Killing Me Softly.
Ouais, Killing Me Softly, mais alors que c'est quoi le...
Jamais son nom, je connais que les Fugees.
Vous êtes nuls.
C'est pas les Fugees, non, c'est pas ça.
Non,
c'est
Juliette connaît. On a Juliette qui est stagiaire 3e dans le studio, elle connaît.
Qui nous dit c'est les Fugees, enfin c'est Roberta Flack d'abord, et puis ensuite les Fugees. Killing Me Softly, ils sont en train de nous tuer à petit feu, ces Canaries qui n'en finissent pas de perdre. Au menu de ce 23e épisode, saison 5 de Sans Contrôle, messieurs, le FC Nantes qui enfile les défaites comme des perles, cette fois en Coupe de France à domicile face à Laval. Est-ce que c'était la copie conforme du match de Clermont ou bien est-ce plus grave? Docteur, une élimination pour mieux se concentrer sur le maintien? Et puis qu'avez-vous pensé des jeunes, Nathan Zézé, Hugo Boutingham et Adel Mahamoud? La crise est-elle déjà là pour le FC Nantes de Gourvennec? Les ultras ont demandé des explications aux joueurs après match. Chirivella, lui, est sorti agacé en deuxième période du terrain. Gourvennec, de son côté, réclame des renforts et il rappelle que le FC Nantes a des résultats catastrophiques en 2023. Donc c'est assez logique que ça se poursuive. Il y a Reims et Lens qui se profilent du lourd. C'est pour ça que je vous parle de crise qui débute. On prend enfin des nouvelles des Africains. L'Égyptien Mostafa Mohamed, le Nigérian Moses Simon, le Camerounais Jean-Charles Castelletto et le Congolais Samuel Mutusami, avec un expert, le journaliste Cédric De Oliveira, qui suit à la Coupe d'Afrique des Nations pour RFI. Allez messieurs, parce que le football peut aussi donner de belles images, les supporters lavallois dans le parquage visiteur ont eux aussi chanté avec les Nantais en hommage à Emiliano Sala à la 9e minute à la Beaujoire. Et ça, ça fait du bien.
Eh hey oh, faites pas la gueule, vous êtes contents quand même, non?
Hey oh, let's go.
Sans Contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Le FC Nantes qui n'en finit plus de perdre, cette fois en Coupe de France face à Laval. Est-ce que c'était comme Clermont? Est-ce que ça va permettre aux Canaries finalement de se concentrer sur le maintien? Et puis un regard sur les jeunes.
We are young.
Yes.
On devrait pas le dire. Juliette. Elle sait aussi?
Non, elle dit oui, je connais.
Ah oui, d'accord.
Mais ouais. Faut retrouver ce que c'est F-U-N et c'est We Are Young. Effectivement, pas bien joué. F-U-N.
Moi, je tiens à dire que je l'avais puisque j'avais vu la réponse sur l'écran et je n'ai rien dit.
Bravo, David.
Je suis
David.
Quelqu'un d'honnête.
Non, t'es malhonnête. T'as essayé de tricher et je t'ai vu à tricher.
T'as juste été chopé juste avant l'émission.
Allez, on commence avec cette défaite contre Laval en Ligue 2. Est-ce que c'est la honte ou pas pour le FC Nantes? Le stade lavallois a été solide, a fait le dos rond, mais avec seulement 30% de possession, ils repartent avec la qualif. Ces tangos m'ont pas impressionné, moi, les Lavallois. Philippe, on était côte à côte au stade. Tu trouves que c'est la honte ou pas pour Nantes?
C'est pas la honte, Mais ça fait un peu désordre quand même, parce que c'était un match à domicile. Nantes doit pouvoir s'imposer quand même face à une bonne équipe de Ligue 2. Et puis ça s'inscrit dans un contexte. Alors je trouve que le Nantes avait bien déjoué le piège au tour précédent
à Pau.
Et je trouve que l'avantage du terrain en coupe, c'est quand même souvent important. Quand il y a une division d'écart, ben, c'est souvent gommé par l'avantage du terrain. La division d'écart là, il y avait l'avantage de la division, il y avait la volonté de se reprendre après Clermont, et il y avait l'avantage du terrain, il y avait quand même 30 000 spectateurs, donc il y avait...
30 000, hein, c'est vrai, hein, il faut le dire. Hein.
Tu l'as dit, Philippe, moi, ce qui me dérange quand même, c'est que tu attends une réaction par rapport à la semaine dernière, et c'est là où elle fait tâche, cette élimination en coupe. C'est que tu attends, après le match contre Clermont, qui a quand même été... triste de perdre contre cette équipe-là. Clermont qui prend quand même, je crois, 3 à Strasbourg. Hein.
Non mais Clermont,
à domicile, contre
à domicile.
Clermont, c'est faible, on l'a dit la semaine dernière, c'est une faiblesse derrière.
C'est pas bon du tout. Nantes a quand même fait un match très médiocre, perdre contre cette équipe-là, qui était quand même important pour le classement. Derrière, t'attends une réaction, t'as des joueurs qui disent franchement, faut qu'on se remette en question, qu'on rebondisse, tout ça. Et
puis la coupe était une belle occasion.
Et tu fais ça contre Laval, t'as pas le droit. Pour moi, t'as pas le droit.
Alors la honte ou pas, Gourvennec en tout cas était en colère.
De l'énervement, de la déception, parce que le parcours en coupe s'arrête. Nantes l'a gagné il y a 18 mois, a fait une finale récemment, je l'ai gagné il y a à peine 10 ans. C'est toujours quelque chose qui est dans nos cœurs et que ça s'arrête comme ça, c'est de la déception et de la colère parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. On s'est fait piéger par Laval alors qu'on était prévenus. C'est pas admissible de sortir en 16e quand on reçoit une Ligue 2 et encore une fois, respect à Laval. Simplement, on avait un stade plein qui nous a poussé et on n'a pas été capable de battre Laval.
Ouais, tu l'as dit, Pam, hein, tous les éléments étaient là pour pousser derrière les Nantais qui n'en ont pas été capables. Est-ce que c'est la copie conforme du match de Clermont en termes de réussite? Nantes a dominé, je le disais, 70% de possession. Il y a eu des situations, mais des situations multiples, mais pas d'occasion franche non plus. En pagaille, hein,
à la tête à la fin quand même de Schoenaerts.
Non mais d'accord, mais tu sors pas avec 10 occasions franches. T'as plein de situations.
Des situations.
Mais il se passe pas grand chose à l'arrivée.
T'as un bel enchaînement de Kadewere là quand il fait son contrôle poitrine et le retourner.
Mais c'est sur 90 minutes.
C'est pauvre quand même.
Si t'as une occasion toutes les 20 minutes sur 90 minutes, c'est
embêtant quand tu. Embêtant quand tu. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, t'as le ballon et t'en fais pas grand chose. Tu tournes autour. Pour moi, Ablin qui était en neuf, a servi à rien du tout. Enfin. Il faut quand même se poser la question à un moment donné de l'utilisation de tes joueurs. Enfin, t'as pas été bon. Hein. T'as le ballon, t'as, comme tu dis, des situations, t'as pas d'occasion franche face à une équipe de Ligue 2 à domicile à Beaujoire.
Sur le côté copie conforme, Philippe, par rapport à ce qu'on a vu face à Clermont, à chaque fois tu domines et à chaque fois tu te fais contrer sur une des rares occasions adverses.
Moi, je trouve que c'est un match qui ressemble beaucoup à celui de Clermont parce qu'effectivement, Nantes domine et je trouve que dans les deux matchs, Nantes, même si c'est pas des occasions franches, Nantes a quand même des approches intéressantes à proximité de la surface
suffisant.
De réparation. Il y a des situations qui sont créées quand même. Moi, j'ai vu des équipes en panne offensivement qui n'arrivent pas à se créer d'occasion. Là, ce n'est pas des occasions franches. Je dirais que c'est à la fois de la maladresse dans la surface, devant le but, avec des frappes pas cadrées.
Mais attends, il y a 80% des frappes ne sont même pas cadrées. Tu n'as aucune chance de marquer.
Et c'est là, on en parlera dans la troisième partie, c'est là quand même que les absences, on peut considérer que les absences de Simon et Mohamed, qui est quand même un joueur de surface, manque énorme. Ces deux joueurs manquent énormément.
Traoré,
c'est extrêmement préjudiciable. En plus, Traoré qui a pris 3 matchs après son expulsion contre Clermont. Ces joueurs qui ont du talent quand même, je pense à Simon.
Ouais, ça te fait une belle excuse quand même.
Simon, il tourne pas à 15 buts par saison.
C'est pas une excuse, c'est une explication.
Mostafa Mohamed, ça fait combien de semaines qu'on dit, ah bah dis donc, il marque plus, il traîne son.
Mais Simon, c'est le joueur le plus. C'est le joueur offensif qui est décisif depuis le début de saison. Il te manque. Je dis pas que c'est une excuse, je leur cherche pas des excuses. Les joueurs qui sont sur le terrain doivent faire mieux. Tu l'as dit tout à l'heure, Ablin, c'est pas au niveau.
Voilà,
je sais pas ce qu'il fait.
Les Africains, on en parlera tout à l'heure. Parlons de
non, mais c'était important de rappeler qu'il manque quand même ces joueurs.
Excuse.
Sur le plan offensif, c'est compliqué. Ablin, bah non, mais ça n'a tout simplement pas le niveau. Mollet, oui, d'accord, il a de l'activité, mais il est très maladroit, quoi. Très, très maladroit. Et il avait déjà été contre Clermont et il a encore été contre Laval.
Là, oui. Je posais la question la semaine dernière, je disais, est-ce que c'était judicieux de donner les clés comme ça du camion à Mollet? Et en fait, tu le vois encore une fois, effectivement, tu ne peux pas lui en vouloir, un joueur-là. Il a l'activité, comme tu dis, il a des situations. C'est l'un des rares joueurs de ballon qui te crée du jeu.
Là, il n'avait pas les clés du camion en plus, parce que tel que Nantes était disposé, c'est plutôt Sissoko, Chirivella et Douglas Augusto qui étaient chargés de distribuer le jeu. On va l'écouter, Pedro Chirivella, justement, sur ces matchs qui se répètent dans le scénario. C'est dur pour lui.
On n'a pas le droit de perdre un match comme ça où on domine autant l'adversaire. derrière où je ne sais pas combien en possession de balles, 70 à peu près. On a rentré 30 fois dans la surface, on a frappé je ne sais pas combien de fois aussi. Voilà. Très déçu parce qu'en ce moment, il y a rien pour nous. Il faut faire plus. Maintenant, il faut rester tous ensemble, tous soudés pour basculer de bon côté parce qu'on fait des choses bien, mais ce qu'on fait, ce n'est pas suffisant pour gagner des matchs. C'est dur en ce moment, c'est notre vérité. Et voilà, il faut rester ensemble.
Ils n'arrivent pas, Pab, à faire basculer ces matchs, les Canaries. C'est vrai qu'ils ne sont pas loin. On a l'impression, face à Clermont, qu'ils vont, en deuxième période, prendre l'avantage. On se dit, face à Laval, que ça va finir par passer, mais l'histoire se répète.
Et puis, ça fait un moment que le problème, il est identifié, que Jocelyn Gourvennec en parle régulièrement en conf de presse. C'est que dès que tu subis une action à l'inverse,
c'est ça.
T'es sanctionné. Enfin, ouais. Laval, ils ont combien d'occasions?
Il y en a eu deux en fin de première mi-temps.
Oui, ouais. Deux franches.
Voilà. Voilà, mais ce qui est catastrophique, c'est que juste avant, tu es sur le point d'obtenir un pénalty. Enfin, tu aurais mérité, pour moi, selon moi, d'obtenir un pénalty avec une faute du gardien sur Ablin. Dans les deux minutes, tu as un but de Laval. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, cette équipe-là, elle est sanctionnée, elle paye cash chaque erreur. Et en plus, tu as un côté où tu peux dire au niveau du scénario, ah, non, on n'est pas verni.
Oui, mais les Nantais ne mettent pas tout pour pouvoir gagner devant et derrière non plus, d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs erreurs défensives, Pab, sur ce but-là. Quentin Merlin, il comprend pas le déplacement des adversaires.
Coco est mal placé, et Lafond sort mal.
Lafond, je trouve, il juge mal le ballon.
Lafond, on est d'accord, moi je le trouve.
Alors vas-y, Philippe, sur Lafond.
Mais attends, juste sur ce but-là, t'as aussi un centre complètement chanceux du Lavallois, parce qu'il sente les yeux fermés.
Philippe, sur Lafond. Ce centre était parfait parce que bien dosé, gênant pour le gardien.
Moi, je suis pas sûr, Pab, que le centre soit totalement raté. Mais
moi j'ai l'impression que le centre est vraiment
il est réussi, mais c'est beaucoup de réussite.
En tout cas, il est vraiment bien adressé, suffisamment tendu et travaillé pour être gênant pour le gardien. Ceci étant,
sur Lafond,
il doit y aller, il doit l'avoir. Il faut qu'il apprécie le ballon, parce qu'un gardien qui sort qui n'a pas le ballon, évidemment c'est dangereux, et là ça se transforme en but.
Et c'est pas la première fois que je trouve il se retrouve un peu dans cette situation, à sortir, pas sortir, à se faire prendre le deuxième poteau.
Il a jamais été à l'aise dans les sorties aériennes, Alban Lafond.
Alors puisqu'on est sur Lafond,
t'as pas l'habitude de porter des casques, Philippe Audouin?
J'aime bien le son au naturel.
D'accord, il enlève, il remet, il fait comme il veut, il est chez lui ici, Philippe Audouin, David. Puisqu'on est sur Lafond, on va faire une courte parenthèse qu'on refermera sur son concurrent, sur Rémi Descamps, qu'on annonçait pour certains jouer ce deuxième match de coupe, comme ce fut le cas lors du premier. Finalement, il reste sur le banc, on compte plus sur lui, et d'ailleurs dans son entourage, David, tu peux peut-être en dire un mot, on dit Nantes, c'est terminé.
Oui, j'ai eu son agent en fin de semaine dernière, Christophe Monguet, et donc le joueur ne s'est pas exprimé, mais évidemment qu'il l'a eu avant de me parler. Le joueur vit comme une injustice, je le cite, donc c'est l'agent qui le dit, la situation. Il ne comprend pas pourquoi il ne joue pas plus, d'ailleurs pourquoi il ne joue pas en Coupe de France. Voilà, donc la situation est très compliquée, et donc il ne prolongera pas à Nantes, il devrait partir libre, donc en fin de saison.
Et c'est un gardien qui est doublure. Doit s'attendre à ce que potentiellement il ne fasse aucun match.
Non, mais
même
Philippe,
si l'année dernière il avait joué la coupe, il y a eu un changement d'entraîneur. L'entraîneur est quand même légitime à dire moi je maintiens le numéro 1, et la doublure, quand elle arrive dans un club, elle sait qu'elle est doublure.
Oui, ouais, mais il est légitime à faire la gueule. Hein, il a fait tout le début de saison pendant la blessure de Lafond, et franchement, il a été au niveau au mois de septembre.
Il a fait son boulot.
Voilà, et peut-être que quelques
miettes. Il estime que Lafond n'est pas irréprochable. Il trouve que lui, il a fait un bon intérim, et il comprend pas. Il trouve ça injuste.
Ça coûte rien de le mettre un peu en coupe.
Pour tout vous dire, ça crée d'énormes tensions entre les deux. Voilà, c'est très compliqué chez les gardiens du FC Nantes. Ça, c'est un problème en plus à régler pour Jocelyn Gourvennec. Il va falloir. Ça dure depuis des semaines. C'était même le cas.
Il l'a réglé, Jocelyn Gourvennec.
Au quotidien, c'est pas simple quand vous avez deux gardiens de but. Qui ne s'entendent pas du tout. Et ça, c'est pas depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvennec. C'était déjà le cas avec Pierre Aristouille.
Illustration à l'échauffement, par exemple. Rémi Descamps ne sort plus pour participer à l'échauffement d'Alban Lafond. Voilà.
J'ai tendance à jeter la pierre aux joueurs qui manquent de professionnalisme.
Je suis d'accord.
Quand ils ne jouent pas le jeu. De l'échauffement avant match. Je suis désolé. Il est salarié du club. Le coach fait ses choix. Le joueur, s'il commence à dire « moi, les choix ne me vont pas, je commence à foutre la merde », désolé, mais il y a un moment, T'es au service de l'équipe, quand
alors,
même.
Alors, sauf qu'au sein du groupe, Philippe, j'entends ce que tu dis, mais personne te dira que Descamps est un fouteur de merde. C'est plutôt un bon mec qui va toujours dans le sens du collectif. Non, mais parce que t'as l'air de dire.
Mais son attitude n'est pas très.
Tu as raison.
J'apporte un complément d'information sur son attitude.
Tu as raison de préciser ça, parce que moi, je suis pas en train de dire qu'il met le bazar dans le vestiaire. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis juste que son attitude n'est pas professionnelle à partir du moment où il refuse de s'échauffer avec Clément Laffont avant match.
Après, le SK, c'est qu'il est dans une situation contractuelle où il est en fin de contrat et où, en fait, quelque part, il est déjà, ce que tu disais, David, il est déjà parti. En fait.
Non, mais ce n'est pas pro.
Non, bien sûr, ce n'est pas pro.
Comme
non,
dit Philippe, c'est pas, il est encore sous contrat à l'heure où on se parle.
Oui, mais en fait...
Ne pas aller chauffer Alban Laffont.
Mais lui, il est en fin de contrat. Il n'a pas eu de prolongation pour X raisons, voilà. Et en fait, lui, il est là à se dire, de toute façon, Nantes, c'est terminé, en fait. Je ne jouerai pas, les dés sont pipés. Qu'on soit d'accord ou pas avec ça, je me mets à sa place, lui, les dés sont pipés.
On ne sait pas s'il jouera plus, parce que là on n'est pas à l'abri d'une blessure. Goronek peut aussi, à un moment, dire... Laffont là, c'est cagade sur cagade, donc je vais changer.
Je ne souhaite pas Jocelyn Gorenec, parce que tu vois, ça risque d'être compliqué à gérer, je pense.
De changer de gardien.
Vu la situation.
On ne peut pas exclure le fait que la doublure soit appelée à un moment ou à un autre. On ne peut pas l'exclure quand on est au mois de janvier.
Sauf en cas de blessure, il est vice-capitaine. Laffont, il a une importance dans le vestiaire. Je pense que c'est très compliqué de le sortir. Oui. Mais t'as raison. Après, dans un mois ou deux.
Moi, je me souviens qu'il y a, c'était la saison dernière après Brest. Quand Alban Laffont fait une énorme erreur qui coûte très cher à 3 journées de la fin, si je ne me trompe pas, ou un peu plus.
Avant,
c'était le match en retard, Brest. C'était juste après la finale de Coupe de France. Je me souviens avoir discuté avec un entraîneur de gardien après ce match qui disait, mais là, ce n'est pas possible. Il faut changer. Il faut mettre la doublure. Moi, je n'étais pas d'accord. Et en fait, Laffont a été maintenu. Il avait fait un gros match malgré la défaite contre Strasbourg dans le match qui avait suivi. Mais ce que je veux dire, c'est que Laffont, à ce moment-là, il n'était pas question de sortir pendant la saison. Et à un moment, vous pouvez retrouver face à une situation qui vous oblige à faire un choix qui n'est pas attendu à l'instant T. Là, on est au mois de janvier. Dans 2 mois, on ne sait pas.
C'est vrai.
Oui, mais ce qui est, c'est qu'en fait, là, la concurrence est tuée. En fait, quand tu parlais, Simon, de l'intérim qu'avait fait Rémi Descamps, il fait son intérim en septembre qui est plutôt bon. Et quand Alban Laffont est revenu, plutôt que prévu d'ailleurs, on se dit, Alban, il a intérêt à être plutôt bon parce que Rémi Descamps, derrière, il pousse. Oui. Et en fait, dans un club, c'est aussi bien d'avoir une émulation, et c'est le principe du foot professionnel, c'est que si t'es pas bon, il y a quelqu'un qui est derrière au taquet pour prendre ta place. Là, c'est, pour les gardiens, c'est pas le cas. Ça veut dire que Alban Laffont, il peut continuer de faire cagade sur cagade, ton numéro 2, tu l'as tué.
Je pensais pas que le sujet prendrait autant, mais on va fermer la parenthèse.
Ouais, mais il fallait préciser des choses.
C'est bien parce que c'est un sujet. Donc, Descamps Laffont, en tout cas après ce match de coupe, c'est assez logique d'en parler. Un mot rapide sur cette élimination. Est-ce que finalement, on peut y trouver du positif dans le fait de pouvoir mieux se concentrer sur le maintien? FCN Altitude nous dit, à la même période l'année dernière, le FCN allait encore devoir jouer 26 matchs dans 3 compétitions. Aujourd'hui, ça donne 16 matchs de Ligue 1 seulement. Donc, toute l'énergie tournée vers l'objectif maintien, est-ce que ce sera suffisant? Formation nantaise dit la Beaujoire est libre pour le 7 février, du coup, pour le 8e de finale, ce sera bien, on pourra accueillir la Youth League à la Beaujoire. Bon, est-ce que ça a un intérêt? Ça fait un match de moins et effectivement, il va être focus sur la Ligue 1.
En même temps, il fallait aller au puits. Hein.
Oui, mais justement, c'était une belle occasion
d'aller en quart. En fait.
C'était quand même une belle occasion d'aller en quart, ça donne des grèches. Bon,
t'avais encore un tirage, voire Royal.
C'est sympa le puits, non? Je sais pas, je connais pas du tout.
S'en fiche du puits. Arrête avec ça.
Mais pour répondre à ta question, oui. Simon, franchement, la Coupe ne pouvait que servir cette équipe-là, qui était en manque de résultats, en manque de confiance, pour se relancer psychologiquement, pour se donner également, je dirais, une carotte plaisante, motivante pour la fin de saison. Là, vous êtes dans votre course au maintien. Il y avait quand même matière à jouer sur les deux tableaux.
Et pour moi, ça veut dire quelque chose parce que tu as quand même fait 2 finales de suite. Et oui, je paraphrase.
On dirait Jean-Marcel Boudard.
Je paraphrase. Qu'est-ce que ça dit nous?
Ça dit quelque chose.
Qu'est-ce que ça dit nous et qu'est-ce que ça dit de ce FC Nantes?
Allez, Pab.
Mais pour moi, oui, ça veut dire quelque chose parce que tu as fait 2 finales de suite. Et en fait, cette coupe-là, notamment l'année dernière, quand les joueurs étaient en difficulté, ils disaient, oui, on montre avec la coupe qu'on est capable d'eux, et on montre qu'on est capable mentalement de ne pas lâcher, parce que cette coupe, on y tient, on l'a à cœur, et ce groupe-là, il avait cette solidarité dans ces moments-là, de se dire, allez, on va vivre une petite aventure, une petite respiration, et là, tu l'as pas. Et de perdre comme ça, à domicile, face à Laval, devant 30 000 personnes, pour un match où tu rends hommage, pour moi, ça veut dire aussi que mentalement, t'as lâché et t'es pas capable en tout cas de te surpasser.
Ouais, c'est pas bon signe et nous aussi ça va nous manquer parce qu'on avait bien aimé les épopées en coupe, ça nous donnait un peu de respiration dans des saisons parfois mornes. Et bah là on va se taper le maintien pour l'FC Nantes jusqu'à la fin de saison les amis.
Ça te fait quand même 17,
c'est au programme.
Ça te fait quoi, 17 matchs en moins quand même hein. T'as ouais, fait ouais, 53
10, ouais, de 26 à 16 là dans ce qui reste.
Bah t'avais 53, t'as joué 53 matchs l'année dernière et là t'en joues 36. Ouais.
Qu'avez-vous pensé des jeunes Nathan Zézé, Hugo Boutingham et Adel Mahamoud qui ont eu quelques minutes de jeu, Zézé était même lui titulaire. Zézé, j'ai bien aimé, nous dit un tweetos, rien d'incroyable, mais c'est pas le pire sur le terrain. Pas moins fort que les habituels titulaires, en tout cas dans les duels. Mahamoud, très dur d'avoir un avis sur un temps de jeu si court, mais il a pris sa chance et il s'est montré remant. Et Boutingham, c'est vrai qu'on l'a assez peu vu, mais Mahamoud, c'est vrai qu'il a été remant. Philippe, on l'a vu quelques minutes. Hein.
Oui, les deux jeunes attaquants, c'est difficile de les juger sur le peu qu'ils ont fait. Effectivement, j'ai bien aimé... Le côté
Nathan Zézé Mahamoud, dans son côté virevoltant.
J'ai bien aimé son côté un peu décomplexé, à vouloir impulser quelque chose. On sentait qu'il voulait montrer, qu'il avait de l'envie.
Bon. C'est marrant quand un jeune, je t'arrête deux secondes, quand un jeune rentre comme ça, on voit un jus qu'il met dans toutes les courses. Alors il se disperse un peu, mais il court partout, il met beaucoup d'envie. Ce qu'on ne voit pas dans des joueurs installés ou habituels qui rentrent.
Tu vois la différence, c'est Gabelin.
Qui rentrent dans une forme de contrôle et il court quand il faut, mais pas... Lui, il se disperse un peu, mais il montrait de l'envie. Et si t'as 11 joueurs qui se défoncent
Philippe
comme ça...
Philippe Audouin, en podcast, quand il vient, trouve pas que c'est un peu ça?
Oui, c'est pareil.
Nous,
c'est
on
pareil.
Est beaucoup plus posé.
C'est
avec
le Mahamoud du podcast.
C'est ça, hein,
c'est bien, ça me rajeunit.
Philippe,
ça
part dans tous les sens.
Je t'ai interrompu, Philippe.
C'est
sur
le défaut de la jeunesse. Tu vois,
sur Mahamoud, Philippe, tu as aimé son énergie.
Je te rejoins sur ce plan-là, effectivement. Sur Zézé, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit...
Par le tweetos.
Voilà. Intéressant, encourageant. Je le trouve assez élégant, c'est pas le plus important, mais je le trouve assez élégant dans son style. Je trouve qu'il dégage une certaine assurance. Je l'ai trouvé à l'aise. Je me souviens d'un corner qu'il reprend de la tête au premier poteau. Il m'a l'air assez grand déjà. Il doit approcher le 1m90.
Il saute haut sur ce corner.
Et dans le jeu aérien, je pense qu'il est très bon. Donc, impression favorable.
Allez, une ou deux passes mal ajustées, une un peu trop forte et une pas suffisamment, si on peut regarder le détail de son match. Mais effectivement.
Il n'a pas été mis sous pression non plus.
Il n'avait pas des gros, gros clients en face.
Non.
Mais il a fait son match, Nathan Zézé. Ça fait tellement longtemps qu'on nous demande de pouvoir juger ce jeune-là. Il a eu l'occasion, en tout cas, de nous montrer ses qualités. Allez, on s'intéresse pour terminer à Mathis Abline. Tu en as déjà parlé un peu, Pab. Est-ce qu'il ne saisit pas sa chance? Parce qu'à travers les absences, il y avait une vraie possibilité pour lui d'être influent sur l'attaque du FC Nantes, de marquer ou de faire des passes
clairement. Clairement. Il est loin d'avoir fait oublier Mostafa Mohamed. Déjà, il s'est fait doubler par Benny Traoré contre Clermont, qui a quand même délivré une passe décisive. Alors, il se fait expulser, il prend 3 matchs. Donc, tu peux te dire que là, Abline, c'est pour lui. Et en fait, moi, j'ai été très déçu de sa prestation face à Laval. Mais comme j'étais déçu de ses prestations à chaque fois qu'il est rentré, à chaque fois qu'il a eu sa chance.
Il plafonne en fait.
En fait, il a fait un bon match. En fait, c'est un peu comme Hudson contre Marseille, où il fait une bonne mi-temps et après, t'as une hype. On dit « Ah, Hudson, super !» pendant 3 mois.
Après,
et en fait, Abline, il fait un bon match contre Lorient. Et depuis, moi, je ne l'ai pas vu faire un bon match. Et il sort souvent à la mi-temps. Hein.
Après, peut-on être surpris finalement? Est-ce qu'on en attendait grand-chose de ce joueur? Regardez les prêts avant à Auxerre, au Havre. Franchement, ça. Enfin, non, mais ça n'a pas été non plus.
C'est un moyen plus.
C'est, ouais, on savait que c'était un joueur. Ouais,
mais t'attends l'éclosion.
Alors, on m'a dit Pierre Aristouille, et donc il faut le fait bosser. Il faut vraiment. C'est un talent à polir.
Mais franchement,
oui, il a des qualités techniques. Je trouve qu'il a, il a des gestes plutôt intéressants. Je trouve que techniquement, il est à l'aise, mais il manque énormément de puissance, quoi. Enfin, pour un attaquant comme ça, c'est compliqué, quoi. Vraiment.
Et tout ça, messieurs, faites entrer doucement le FC Nantes dans une énième crise. On en parle.
Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Cette crise est-elle déjà là pour le FCN de Gourvennec? Les ultras ont demandé des explications aux joueurs après match. Chirivella est sorti agacé en deuxième mi-temps. Gourvennec veut des renforts. Il rappelle que Nantes a été nul en 2023. Et puis à Reims, il y a Lens qui se profile. Ça se tend sévère.
Donne-moi le temps, Jennifer.
Oh oui.
Donne-moi le temps.
Donne-moi le temps. Jennifer, bien sûr.
Tu l'avais, Juliette?
Elle est surtout concernée.
Tu me fais flipper, Pam.
Qu'il faut apprendre.
Et lui, il a vraiment vu les
temps.
Il a vraiment vu les temps.
va s'arrêter là, Pape, ça devient n'importe quoi. Pas sûr que Gourvennec ait beaucoup de temps, justement. L'impatience est là, celle des supporters déjà. Les ultras ont donc demandé des explications aux joueurs après match. Ce qui s'est passé hein, dans le scénario, c'est d'abord que Kadewere s'est dirigé vers les supporters. Marcus Coco était là et puis Nicolas Palois aussi dans la suite de son hommage. Les autres étaient rentrés au vestiaire et puis ils sont ressortis des vestiaires après qu'on leur ait demandé de ressortir pour avoir des explications.
Je comprends pas ces scènes.
Long échange avec les joueurs. Écoutez, Pedro Chirivella nous en parlait.
Voilà, les supporters, c'était agacé qu'il y avait des joueurs qu'on n'a pas les saluer après le match. Voilà, on a discuté, c'était clair à la fin et on s'est dit que tous ensemble, c'est la seule manière où on va se sortir de ça. Eux, ils montrent qu'ils sont là tout le temps, donc voilà, c'est à nous d'être à l'auteur.
De l'agacement des supporters de la Tribune Loire, la Brigade Loire principale, principalement avec lesquels ont eu lieu ces échanges. En parallèle de ça, pour être complet, il y a eu quelques incidents sur le côté du stade de la Beaujoire avec des supporters issus de différentes tribunes, peut-être de la Loire, m'a-t-on dit, mais en tout cas pas de la Brigade Loire qui était en train de discuter avec les joueurs qui se sont mis à agiter les grilles contestant le résultat et la prestation des Nantais sur cette rencontre-là. C'était pas d'énormes incidents, mais ça a eu lieu. Il y a eu des gaz lacrymogènes, etc. Donc c'était quand même un petit incident.
Ça traduit quand même une ambiance. Non, mais ça dit quelque chose de l'ambiance au FC Nantes, ouais. Et même pendant le match, parce que tu entends le nombre de sifflets. Nantais, bouge ton cul. T'as quand même pas mal de chants.
Vous
comme
êtes
ça.
Des merdes, oui. A été chanté également. Oui.
Et t'avais le match d'avant, Pierre Aristoui, qui a été chanté pendant 10 minutes, 10 bonnes minutes, un quart d'heure. Ça veut dire ça veut dire quelque chose de l'ambiance parce que tu l'as dit, et Pedro Chirivella le dit, les joueurs sont toujours derrière leur équipe. Bon, tu peux pas leur reprocher de
les
pas avoir...
Les supporters sont derrière leur équipe.
C'est pas parce que les supporters sont derrière leur équipe que ça leur donne le droit d'insulter leurs joueurs.
Mais c'est pas ce que je te dis.
Ah,
je te dis juste que... Okay. T'as des supporters...
Il est en train de se tendre, Philippe. Là.
Non, mais c'est juste que t'as des supporters qui sont derrière leur équipe, et ils l'ont montré l'année dernière quand même jusqu'au bout... Même si on sentait déjà que ça commençait à se tendre les derniers matchs quand tu vois.
Ça a été union sacrée hein, dans les derniers matchs pour que le club reste en Ligue 1.
Alors qu'ils auraient pu lâcher.
Ils étaient venus à la Genelière, souviens-toi, les supporters, voilà. Pour discuter avec le groupe.
Même à la Beaujoire, il y a eu.
Il y en a eu des petits entretiens.
Montpellier, les 0-3. C'est quand même
d'ailleurs ça devenait un peu ridicule à chaque fin de match à la Beaujoire, les joueurs allaient prendre leur petite leçon de la part des supporters. Je
trouve ça toi ça te plaît pas du tout?
Non, je trouve c'est un peu agaçant. J'en ai marre de voir ces scènes, mais pas qu'à Nantes, mais
oui.
Vous avez vu ce qui s'est passé en Belgique. Bon, là c'est encore autre chose, là vous avez vu.
Donc si c'est autre chose, on compare pas du coup?
Non parce que c'est pire encore. C'est
non, mais
vous avez pas
Lyon,
vu cette vidéo?
Elle est
sur
si je l'ai vu,
mais c'est partout où on avait à Lyon ces joueurs alignés. On a l'impression que c'est des élèves qui écoutent. Je sais pas, j'ai du mal à. Ils étaient tous alignés, les Lyonnais, à écouter religieusement.
On va rester sur les Nantais?
Mais là, c'est plus.
Alors, l'échange te parle pas, toi? Bah pour moi, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des supporters qui se sont donnés pendant toute une rencontre à encourager et qui, à la fin, demandent à être salués, la moindre des choses.
Très bien. Ouais.
Là, les joueurs étaient rentrés au vestiaire, ils sont pas allés jusqu'à saluer. Peut-être qu'ils avaient honte aussi de leur prestation.
Ils se faisaient aussi copieusement siffler.
Le problème, Simon, c'est que s'ils y vont. Ils vont se faire insulter.
Et vous vous souvenez, finale de Coupe de France.
Après une défaite, c'est souvent ce qui se passe.
Non, Philippe, donc, j'imagine que
moi, je suis d'accord avec toi.
Donc,
Philippe,
tu vas prendre ton bain de félicitations que quand tu gagnes et tu ne vas pas saluer les supporters.
C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Non, mais je suis désolé. Les supporters doivent aussi accepter que la défaite fait partie du jeu, que les joueurs n'ont pas fait exprès de perdre et qu'ils n'ont pas à être insultés parce qu'ils ont perdu.
Moi, je distingue deux choses. Le fait que les supporters disent « vous venez pas nous saluer », enfin, moi, je me souviens de la finale de la Coupe de France où tu prends quand même une grosse rousse contre Toulouse. T'as Moutou Samy qui est un des seuls qui veut aller vers le COP et qui se fait copieusement insulter.
On l'avait expliqué,
On l'avait expliqué et ça avait fait tout un pataquès, machin, alors que moi, j'avais bien vu Moutou Samy qui essayait piteusement un des seuls à aller voir le COP et qui s'était fait pris pour, il avait pris pour tous les autres. Donc ça, moi je trouve je rejoins David sur le côté, on va aller prendre notre leçon.
Bon, vous êtes tous les trois d'accord, alors je vais essayer de vous répondre.
Je te dis juste qu'il y a cette partie-là où je suis un peu d'accord avec David. La deuxième, c'est que les supporters, ils font partie du match et ils font partie du soutien de l'équipe et que ce soutien-là, il a été indéfectible, tu l'as dit la saison dernière avec une union sacrée, mais ce soutien-là, tu peux le perdre. On l'a vécu à Nantes. Pendant des années, moi je me souviens des années 2016-2017, c'était pas terrible. Et t'avais des frondes à chaque match, t'avais des tribunes un peu vides, t'avais des grèves, des encouragements. Et ça, quand tu joues le maintien, on est quand même qu'en janvier, quand tu joues le maintien, que t'es dans une situation difficile, que les tribunes se tendent comme ça, tu peux vivre une fin de saison très très difficile.
Ils seront toujours là.
Ça,
moi, je suis sûr que
ça s'explique aussi dans un contexte de ce qui est devenu le football, pour te répondre, Philippe. C'est-à-dire que ces supporters sont les gardiens du temple. Hein. C'est ceux qui sont là, ils étaient là il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Les joueurs, eux, sont de passage. Ils portent le maillot 1 an, 2 ans, ils s'en vont. Donc l'amour des couleurs, ça leur parle un petit peu moins. Ils font un job. Eux te disent, vous défendez nos couleurs parce que nous sommes les gardiens du temple et de cette histoire du FC Nantes. Je pense qu'avec un Frédéric Darrocha, avec un Nicolas Savino, à l'époque, malgré des défaites, des circonstances difficiles, quand ils s'avancent vers la tribune, il y a du respect pour ce qu'ils ont fait pour le club. Là, tu as effectivement des acteurs qui, pour la plupart, sont de passage, donc le rapport va être un petit peu différent.
Tu peux pas comparer les époques, Simon.
Ben non, mais que, Darrocha, non, mais tu essaies de comprendre ce qui se passe maintenant. Ben si, je les compare, bien sûr que si. Parce que quand c'est Nicolas Pallois, écoute ce que je te dis, il jouait pas le top 5 du tout, il jouait la relégation, c'était dur les années avec Darrocha.
Oui, Darrocha, il joue le maintien, il se maintient à la dernière journée en 2005, ils ont quand même été champions en 2001.
Oui, mais tu n'écoutes pas.
En 2006.
Mais tu n'écoutes pas ce que je dis. On s'en fiche de ça. Je te dis, quelqu'un qui reste longtemps dans un club, il devient aussi membre de la communauté et du club, et tu le regardes différemment. Nicolas Pallois, que tu aimes tant, évidemment qu'il est regardé différemment par les supporters, parce que ça fait plusieurs années qu'il porte ce maillot, qu'il a vécu des choses. On a des histoires en commun avec. Et quand Nicolas Pallois s'avance vers la tribune noire, on discute, on l'écoute et on ne l'insulte pas. Je ne justifie pas les insultes.
Est-ce que Simon bénéficie du même traitement? Parce que ça fait plusieurs années qu'il est là. Donc je pense que c'est aussi une question.
Coco aussi, Lafont aussi.
Et c'est pas parce qu'un joueur.
Moutoussamy, il est là depuis longtemps, il s'est fait insulter.
Oui, c'est pas parce qu'un joueur n'est là que 2 ans. S'il est irréprochable dans son attitude pendant 2 ans, il n'a pas plus le droit de se faire insulter qu'un Nicolas Pallois
ou un
Darrocha.
Qui a dit le droit de se faire insulter?
Si, tu viens de le dire là.
Vous comprenez rien du tout. Je ne justifie pas les insultes. Je dis que le rapport entre les joueurs et les supporters, puisque c'est ce dont on est en train de parler,
il a changé
parce que les joueurs sont souvent de passage. Et que oui, les supporters sont désormais les garants dans les clubs et les institutions. Et c'est pour ça qu'il y a davantage de dialogue.
Je vais donner l'exemple de Marcus Coco. Marcus Coco, il est depuis perpète. Le mec,
il est franchement.
Et tout le monde dit qu'il est gentil.
Mais arrêtez de me parler des insultes. Pourquoi vous fixez sur les insultes? Je ne vous parle pas des insultes.
On met de côté les insultes.
Je vous parle des relations et du fait qu'ils doivent rendre des comptes à ces gardiens du temple. C'est de ça que je vous parle, pas des insultes. Personne justifie les insultes.
Mais non, mais tu dis.
Vous comprenez pas qu'il y a un dialogue entre les supporters.
Tu dis qu'un joueur qui est identifié club va bénéficier de plus de respect de la part des joueurs.
Évidemment.
Donc on met les insultes de côté.
Évidemment.
Je suis désolé. On doit respecter un joueur, même s'il est là sur une période plus courte, à partir du moment où il est irréprochable. C'est pas parce qu'il n'est pas là, c'est pas parce qu'il n'est pas formé au club, c'est pas parce qu'il n'est pas là depuis très longtemps. Je suis pas d'accord avec ça.
Je pense qu'un Darrocha aura une compréhension de ce qu'est le club et qu'il est beaucoup plus touché par ce que devient le club qu'un joueur qui est là un an. Ce que je te dis, c'est qu'un Darrocha qui reste là 8 ans ou 9 ans, il sait qu'il sera Nantais la saison suivante. Des joueurs, au moment de la lutte pour le maintien la saison dernière, on l'a dit, peuvent se dire... Bah,
et
écoute,
t'as combien de Darrocha aujourd'hui?
Si ça coule, je ne serai pas là.
Là non, bah,
je pense que tu
ne
vas pas de la même manière.
Part.
Mais Simon, il y a 20 ans, j'ai aussi entendu des gens pester contre ces joueurs clubs qui n'y arrivaient pas, qui ont failli envoyer le club en Ligue 2 en 2000 déjà, il faut s'en souvenir. Et les critiques, elles étaient aussi virulentes. Le climat était différent.
Tu leur disais pas, vous allez partir de toute façon dans 6 mois. Vous allez partir, vous en fichez du devenir du club. Tu pouvais pas leur dire ça.
Je sais pas si on l'a pas dit pour certains joueurs qui étaient cotés et qui étaient sûrs de trouver un club, hein.
Est-ce que c'est le reproche que font les supporters aux joueurs aujourd'hui?
Oui, non, je crois pas que ce soit ça.
Si, peut-être que ça fait partie du discours des supporters.
Ah oui, ça fait partie.
C'est de dire
le club, vous en fichez, mais nous, on sera encore là. C'est exactement ce qu'ils leur ont dit à la Genelière l'année dernière quand ils ont échangé sur le terrain d'entraînement.
Un vrai supporter, il est aussi là dans les moments difficiles, Simon.
Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup pour les supporters nantais depuis.
Quand le match est terminé, c'est pas. C'est marrant parce que moi, je vais souvent au basket. Je suis frappé.
Il fallait qu'il parle de Cholet.
Je suis frappé de voir. Mais vraiment, c'est de plus en plus flagrant de voir la différence d'attitude entre un public. Alors, je vais plus parler du public de Cholet parce que c'est celui que je vois le plus, mais excepté Limoges, où il y a vraiment, je dirais, une vingtaine d'énergumènes qui ressemblent à des ultras de foot, et j'aime pas cette mentalité. Je trouve que le public à Cholet ne siffle pas son équipe parce qu'elle a perdu. Et parfois, c'était décevant. Il y a eu une série récemment qui était mauvaise, et ça me frappe de voir quand même ce côté fair play. Ce côté, on est derrière l'équipe, même s'ils perdent.
Ça dépend des circonstances, ça dépend du club. Tu connais le contexte à Nantes, ça explique beaucoup de choses.
On sait qui est à la tête du club.
Voilà, ça dépend beaucoup de choses.
Le fait que ça soit le FC Kita pour certains.
Pour conclure là-dessus, vas-y Pab, on termine là-dessus.
Non, juste un truc, il y a un truc qui m'embête, c'est ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord de l'importance des supporters dans un club. Et que les supporters sont là ils sont là avant, ils se font le présent et ils seront là après. Après, c'est pas pour autant que tu dois être gardien du temple, comme tu dis, et représenter uniquement le club. Le club, c'est les supporters, ce sont les joueurs, ce sont, que tu le veuilles ou non, les dirigeants, les gens qui sont autour, les gens qui sont juste sympathisants, les gens qui sont ultras. Comme une famille, c'est une entité. Et t'as pas un groupe qui doit être au-dessus des autres et à dire...
Qui a dit qu'ils étaient au-dessus des autres ? Ils demandent des comptes en disant, là, vous vous battez pas, ça, nous, on se défonce pour vous supporter, et vous, sur le terrain, on retrouve pas la même chose. Après, que ça se fasse à chaque match, moi aussi, je trouve que c'est ridicule, je suis d'accord avec David.
Là, ça a été fait
parce qu'on
fois,
va pas, on va pas on rendre voir, des comptes toutes les semaines sur ce qui s'est passé. Mais que de temps en temps, il y ait une piqûre de rappel pour dire, vous voyez, là, on est des milliers à chanter, sur le terrain, j'ai pas l'impression que tout le monde soit à fond. Voilà. Ça peut paraître basique, mais c'est quelque chose que je comprends à travers ce que je vous ai dit. Mais on n'est pas d'accord, c'est
mais
pas
non,
grave.
Moi aussi, je suis d'accord avec toi.
Là-dessus, à la limite, je peux te rejoindre sur ce que tu viens de dire.
Ça y est, bah,
j'ai pas dit autre chose.
Juste pour finir, c'est que la fin de saison peut être très tendue.
Alors,
on est qu'au mois de janvier.
Tension avec les supporters, en tout cas... qui débute. On verra comment ça évolue. Chirivella, lui, sur le terrain, parmi les joueurs, est sorti agacé en deuxième mi-temps. Un capitaine frustré de quitter la pelouse en premier parce que, vous l'avez compris, Gourvenec, qui veut faire jouer les trois au milieu. Mais maintenant, c'est Chirivella qui sort en premier, le capitaine.
Oui, je me trouvais mieux que ces dernières semaines au milieu de terrain. Et après, le coach, il fait son choix et il faut respecter, voilà.
Ce qui t'agace, c'est le fait de ne pas être utilisé à ta position préférentielle et de sortir en premier, c'est ce que tu comprends ?
J'aime beaucoup toucher le ballon. C'est vrai que plus haut, tu touches moins le ballon, mais quand même, je pense que voilà, c'est la position et le système qu'on a joué contre Nice. On avait gagné et on avait fait un gros match. Donc c'est vrai voilà, que je préfère être plus basse pour avoir le jeu face à moi. Mais je pense quand même que j'ai fait des bonnes choses aujourd'hui. J'ai trouvé quelques passes que le coach il aime bien que je trouve.
Il a fait des passes que le coach aime bien qu'il trouve.
On sent qu'il
voilà.
a besoin de prouver des choses.
Ouais. Franchement, il a été très classe en après-match. Hein, il nous a vraiment dit... Non, mais
il n'est pas obligé de venir. C'est vrai que franchement,
il y en a
qui ne viennent pas.
Il nous dit c'est pas ma position préférentielle, mais j'ai compris pourquoi le coach me met là. Et je fais ce que je peux. Derrière, on sent quand même qu'il est un peu agacé. Il a été, lui, capitaine, lui, taulier, lui, peut-être le meilleur Nantais depuis des mois, changé de position.
Il a tout dit. Il aime être face au jeu. Il le dit lui-même. Son vrai poste, c'est milieu de terrain, devant la défense, avec le jeu face à lui, venir faire des appuis remises. Comme à Pau, ça m'avait marqué. Non, t'étais pas à Pau, c'était Sébastien qui était là. Mais il était dans un poste hybride de meneur de jeu avec Mollet. Et il redescendait faire des appuis remises avec ses défenseurs. Enfin, et Gourvenec lui disait, mais non, pas ici. Il était totalement paumé.
La mi-temps qu'il fait contre Clermont, c'est pareil. Hein.
Oui, c'est pareil.
Il est dans le couloir et en fait, il va chercher les ballons dans l'axe. Le fait de sortir Chirivella, le fait que lui soit en difficulté, ça traduit aussi le jeu de Jocelyn Gourvenec. Ça veut dire qu'il préfère...
Ça dit beaucoup.
Ça veut dire... Des fois, là, je voulais pas le dire. Mais ça veut dire que tu as deux milieux de terrain très défensifs qui sont pas là pour produire du jeu. Et Moussa Sissoko, ok, il était mieux ces dernières semaines, mais c'est pas un meneur de jeu, pas un joueur qui te fait des passes laser, des passes Ligue des Champions, c'est pas un joueur qui te crée des décalages.
Donc il en manque un joueur comme ça. On en a un de moins.
Tu as Chirivella qui est en difficulté. Douglas Augusto, ok, il fait un très bon match contre Clermont. On a dit il était haut, il allait distribuer des ballons. Mais est-ce que c'est à lui de faire ça ? Est-ce que c'est sa qualité première ? J'en suis pas sûr. Florent Mollet, qui est capable de faire ça, il se retrouve isolé sur l'aile. Et du coup, tu te retrouves avec qui au milieu de terrain de technique qui te fluidifie le jeu et qui te crée du jeu ?
Philippe, Vince nous dit, c'est quoi l'idée de base de la compo ? Contre Clermont, il était flagrant qu'il n'y avait aucune animation dans le couloir droit. Ça a été mieux quand Bamba est entré, quand Chirivella est sorti. Guillaume nous dit, tant qu'il nous fera jouer en 4-4 de losange avec trois milieux défensifs axiaux, forcément, on n'a aucune largeur de jeu et la construction du jeu est inexistante. Et Dédé nous dit qu'il commence par faire jouer les joueurs à leur poste. Déjà, Gourvenec, ce sera un bon début. Il y a une critique autour des choix de Gourvenec actuellement, Philippe.
Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Chirivella doit rester à son poste de prédilection. C'était un des rares joueurs qui apportait quelque chose, qui était fiable. Au moins, l'équipe pouvait s'appuyer sur ce point fort-là. Et je ne comprends pas le choix de l'excentrer. C'était le capitaine, exemplaire dans l'état d'esprit. Vraiment, la courroie de transmission au milieu de terrain.
Je vais essayer de te l'expliquer. Jocelyn Gourvenec, qui fait aussi de la politique. Il sait l'importance de Sissoko dans le vestiaire. Il sait la carrière de Sissoko. Il a réussi à le remettre sur les rails. Et c'est vrai que Sissoko
a été pas mal sur ses derniers matchs.
Et Chirivella, dégât collatéral de cette montée en puissance.
Mais qu'est-ce qu'il te crée comme jeu ?
Mais t'as plus à perdre, moi, je trouve.
Il y a plus à perdre. Et je trouve que dans une équipe qui manque de certitude, qui manque de talent, parce que l'effectif, il est quand même pas extraordinaire, on va pas essayer de mettre Sissoko à son meilleur poste. En prenant le risque de se priver de son meilleur élément à son poste. On ne change pas quelque chose qui fonctionne dans une équipe où il n'y a pas abondance de biens.
David.
Non, mais j'ai déjà dit, il faut absolument qu'ils remettent Chirivella. Philippe l'a très bien dit, il fluidifie le jeu. C'est vraiment un joueur, par une passe, il peut faire des décalages, des différences. C'est impératif. Et puis Sissoko, eh ben, là, sur Laval, il n'a pas été terrible. Il peut le ressortir. Hein. C'est pas une catastrophe. Oui. Il est à 5 mois de la fin de son contrat. Oui. Ça ne sera pas une catastrophe. Ça restera un bilan catastrophique.
Dans le choix de sortir Chirivella, moi, j'aurais vu Sissoko remplacer et repositionner Chirivella dans l'axe.
Mais c'est une pas possibilité. L'impression que ce soit la stratégie de Jocelyn Gourvennec. Et tu le vois, de toute façon, tu as perdu sur 11 matchs. Tu n'en as gagné que 2. Et dont le premier qui est de Jocelyn Gourvennec contre Nice, et tu vois que tu as une équipe qui est plus capable de créer du jeu et de dominer face à des équipes qui finalement, hormis Nice qui était censé être favori, tu as perdu, et Paris évidemment, mais tu perds contre des équipes contre qui tu étais censé être meilleur et contre qui t'as été obligé de faire le jeu. Et tu vois que tu n'es pas capable de faire le jeu. Et moi, ça me rappelle quand même...
Tu n'es plus capable de le faire.
C'est là que je vois la perte, mine de rien, il faut quand même le dire, dans le jeu, dans la construction du jeu, entre Pierre Aristouille, ou en tout cas sans nommer les entraîneurs, entre le FC Nantes du début de saison et celui qu'on a depuis, de toute façon, je l'avais calculé l'autre jour, depuis la victoire contre Montpellier. Depuis ce jour-là, tu as pris ton 4-0 à Lens où tu fais une bonne mi-temps, et depuis cette mi-temps à Lens, il y a un truc qui s'est cassé, tu n'y arrives plus.
Est-ce que Gourvennec est menacé? Est-ce qu'il est en danger après tout ce qu'on a dit? On a parlé des supporters, on a parlé du vestiaire, des camps fâchés, Chirivella un petit peu agacé notamment. Gourvennec, lui, au micro, nous a rappelé, Philippe, en après-match, que le FCN avait des résultats catastrophiques en 2023. Il a réclamé du renfort au mercato. Alors, est-ce qu'il sort le parapluie ou est-ce qu'il fait un constat objectif? Écoutez-le.
Je rappelle juste que le FC Nantes, sur l'année civile 2023 et avant-dernier, en ayant l'avant-dernière défense, c'est la plus mauvaise attaque et donc la plus mauvaise différence de but. Ça, c'est la réalité sur toute une année. Et donc, ça veut dire que c'est ancré aussi. Et donc, on doit inverser la tendance. Ça passe aussi par rendre l'effectif meilleur. Et je l'ai expliqué, il y a eu des départs qui étaient nécessaires. Jaouen nous a quittés il y a quelques jours. On a des joueurs à rebooster. On a des joueurs que l'on attend aussi qui vont rentrer de la canne. Ils sont 4 et sont des joueurs importants. On a des jeunes joueurs du club qui ont beaucoup de talent et pour lesquels on va faire de l'espace, et on a des joueurs qui sont là et que l'on doit rebooster sur le plan mental. Le processus, il est en cours, ça prend un peu de temps, trop de temps. Je m'attendais pas à ça, mais on y est.
Je m'attendais pas à ça, mais on y est. Il avait pas fait le bon diagnostic en arrivant. Il avait pas réalisé que cette équipe était, si on le comprend, nulle en 2023. En tout cas, l'une des plus nulles en Ligue 1. Et il le rappelle maintenant en disant: attendez, j'ai un chantier de fou, je pensais pas que c'était aussi important. Mais ils sont nuls et il faut des renforts.
Est-ce qu'il flingue ses Nice? Comme l'année dernière, la fin de saison dernière, ce qui a flingué le FC Nantes, c'est que tu fais une demi-finale de fou contre Lyon. Et tu surfes là-dessus pendant des semaines, sur toute la fin de saison. Tu te dis, tu vas t'en sortir. Les joueurs le disaient, on va s'en sortir. On a battu Lyon en Coupe de France. On a fait un super match.
Alors sur
on
Nice,
a fait
pas
la Juve.
Sur Nice. Sur Nice, Nantes fait un bon match. Ouais, Lafond fait un match extraordinaire.
C'était pas non plus le match de l'année.
Oui, mais c'était le premier match de Gourvennec. Il gagne 1-0 face
solide,
à une équipe.
Qui est deuxième à l'époque.
Qui était deuxième, qui avait pris que 9 buts en Ligue 1.
Oui, qui depuis est en train d'un peu plonger quand même.
Je suis d'accord avec toi, David, mais c'est ce que je te
dis. Ça reste vrai.
Que c'est une illusion, que ce match-là est une illusion de te dire Nantes est capable de. Et en fait, non. Nantes n'est pas capable de aujourd'hui.
Je ne suis pas sûr que ce match ait fait des dégâts.
Je ne crois pas.
Je ne suis pas d'accord.
Non, je t'ai dit juste que c'était
Gourvennec menacé ou pas? Est-ce qu'il a raison?
La question de Simon, pour moi, il n'est pas encore menacé. Pour moi, il n'est pas encore menacé parce qu'il vient d'arriver, parce que je pense que Kita, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en pense, quoi qu'on en sache, il en a peut-être un peu marre aussi de virer ses entraîneurs au bout d'un mois ou deux. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Je pense qu'il va attendre.
Ça me dérange.
Là, il va attendre. Parce qu'il ne va quand même pas remettre une pièce dans la machine en étant le président qui vire ses entraîneurs au moindre coup de vent. En revanche...
Est-ce qu'il a raison, constat objectif ou pas? Son effectif est nul, ou en tout cas l'un des plus mauvais.
Son effectif est totalement déséquilibré.
Le mercato estival
a été complètement manqué, maintenant il faut le dire. Hein. Voilà, 1 sur 8, Douglas Augusto, Schommert, on avait encore des doutes il y a quelques semaines, maintenant on n'en a plus. Moi je le trouve vraiment pas à la hauteur. Donc est-ce qu'il est menacé? Quand on a un président comme ça, oui évidemment, mais le président Kita, il a pris la parole après le match, il a eu un discours extrêmement mobilisateur.
Il a appelé à l'union sacrée. Extrêmement mobilisateur, les joueurs le connaissent.
Il a parlé aussi d'un projet, qu'il y avait un projet avec Gourvennec qui était Gourvennec l'a dit, il parle d'un processus qui est en cours. Et c'est ce que l'entourage de Gourvennec répète à l'envi, nous répète à l'envi, c'est qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place.
Oui.
Avec la formation, ça bosse
oui.
plutôt bien.
Oui.
Voilà, plutôt même très
alors,
bien.
Oui.
On sent qu'il veut intégrer des jeunes. Alors certains vont dire, ouais, il fait de la politique, il fait de la com. Et
oui,
tout.
Bien sûr, ça fait partie.
Oui, mais en tout cas, il est fait rentrer, il les intègre, voilà. Donc, il y a un projet qui est en train de se mettre en place. Va-t-il avoir le temps de continuer à travailler sur ce projet, à le développer? Je ne sais pas.
On l'écoute, Gourvennec, justement, sur le fait d'être menacé et cette question des jeunes.
Je connais la réalité du métier de l'entraîneur. Je baigne dedans depuis presque 15 ans maintenant. Donc, je sais très bien que c'est toujours la responsabilité de l'entraîneur qui est pointée. Simplement, c'est des choses qui reviennent ici à Nantes. S'il suffisait de changer les entraîneurs, ça se saurait. On est reparti sur un nouveau cycle parce que c'était la décision du club pour changer les choses. L'envie de faire des choses différentes, d'intégrer plus les jeunes parce que c'est l'ADN du FCN. Ce processus-là, il est en cours. On y travaille. Moi, je passe mes journées, je ne vais pas vous donner de détails, je passe mes journées à la Jaunelière, je ne fais rien d'autre. Parce qu'il faut qu'on trouve des solutions et que quand on demande aux joueurs d'être dans l'abnégation, ça commence par nous, le coach, le staff, et c'est ce qu'on fait et on ne lâchera pas là-dessus.
Il sait très bien la situation du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec. Je vous laisse réagir, mais avant cela, quelques messages des tweetos. Paco nous dit « Il n'a pas honte de demander du renfort alors qu'il ne reste plus que le championnat à jouer. C'est son job de faire avec les moyens qu'il a. Son prédécesseur avait fait mieux, avec moins. » Megafun nous dit « Je suis surpris du si peu de réactions sur cette déclaration spécifiquement. On a un entraîneur qui perd son 5e match en 6 et il dit quoi? Que c'est la faute de son prédécesseur qui était 13e et qui a gagné la Coupe de France et de cet effectif.
5e défaite en 7.
Ouais.
En 7 matchs. Jules, avec la Coupe de France, défaites.
Ouais. Jules nous dit qu'il arrête de se planquer derrière le bilan 2023. Son bilan à lui est catastrophique. Il est la pire nomination faite par le président en Ligue 1 sur les 10 dernières années. Vous trouvez ces messages bien durs, mais ils traduisent vraiment le sentiment et ce que disent les supporters.
Mais le problème, c'est qu'il passe après Aristou et que voilà. tout le monde. Beaucoup adoraient.
Il y avait
quelle est sa part de responsabilité à Jocelyn Gourvennec sur ses premiers matchs?
On l'a
importante
dit.
Ou pas?
Oui. Non, mais dans ses choix, il y a des choses qui. On en a parlé avant. Il va falloir qu'il mette les joueurs. Chirivella, on l'a dit, on va pas revenir. C'est un joueur fondamental dans cette équipe. Il faut qu'il le remette à sa place. C'est hyper important. Donc il y a des choix dans les compos, des choix de joueurs qui me surprennent moi un petit peu.
Pour moi, il a une responsabilité parce que tout à l'heure, tu as lu un commentaire d'internaute qui disait oh, le 4-4-2, c'est plus possible. C'est marrant parce qu'on disait la défense à 3, c'est plus possible, le 4-3-3, c'est plus possible. En fait, à chaque match, il change de système. Il n'a pas trouvé la bonne formule. Comme dit David, il met des hommes. Alors, Mollet, un coup, il est en soutien de l'attaquant, un coup, il est ailier. Chirivella, un coup, il est sur le côté, un coup, il est assis. Et tu vois bien qu'il n'a pas trouvé, que ce soit les hommes, que ce soit le système, que ce soit l'animation, faire le jeu, pas faire le jeu. Enfin, tu fais de moins en moins le jeu. Enfin, tu n'y arrives pas. Il veut solidifier la défense, ne plus prendre de buts. Un ou deux buts par match.
Ce que tu viens de dire illustre parfaitement le fait que cet effectif-là, il ne peut pas faire de miracle. T'as affaire à des joueurs qui sont relativement limités. Moi, je voudrais juste te dire que Gourvennec est un excellent entraîneur. Moi, je l'ai côtoyé à Guingamp.
Je
l'ai suivi de près. Je pense que Nantes a tout intérêt à faire confiance à cet entraîneur, même si la fin de saison est difficile, même si le maintien est obtenu en étant tiré par les cheveux, ce n'est pas grave. C'est un entraîneur sérieux, compétent, qui bosse et qui est un excellent manager qui sait manier un groupe et mener un groupe.
Ce qui plaide pour lui, il l'a dit au début de son intervention, Jocelyn Gourvennec, c'est qu'il a 15 ans d'expérience. Donc, par rapport à Pierre Aristouy, il a ce bagage-là. Déjà, il a connu Nantes et il a 15 ans d'expérience et il a gagné. Donc, ça lui donne un tout petit peu de temps. Mais Philippe a dit quelque chose.
Je ne sais pas si ça lui donne du temps.
Mais non, mais un tout petit peu, peut-être aujourd'hui.
Il est très conscient des enjeux, on vient de l'entendre.
T'as d'autres entraîneurs avec le bilan qu'il a qui seraient virés.
Mais c'est pas grave, ça c'est pas grave. Le tout, c'est de faire une analyse par rapport à l'entraîneur que tu as. J'ai bien aimé aussi ce qu'il dit. Jocelyn Gourvennec, il dit... Mais ça se saurait s'il changeait d'entraîneur tous les 6 mois ou tous les ans.
Bah,
c'est la solution Nantes à payer pour le savoir.
Il parle en miroir de Pierre Aristouille aussi qu'on a changé et lui arrive. Finalement, les résultats n'ont pas bougé.
Philippe,
hein.
Tu l'as mis, il faut peut-être un moment se poser la question aussi des joueurs et de ce vestiaire. Tu changes les entraîneurs et les résultats ne changent pas.
Ah bah,
L'année 2023, le bilan pour moi, il est terrible. On l'a fait tout en fin d'année, on a tous parlé. T'étais la pire équipe sur l'année civile 2023. Ce qui veut dire quelque chose quand même, encore une fois. Mais non, mais ça traduit quelque chose. Ça traduit que tu as un groupe qui n'est pas capable, pour moi, personnellement, je trouve que tu as un groupe qui n'est pas capable de se faire mal, qui n'est pas capable de se dépasser, qui, quand c'est difficile, n'arrive pas à franchir le cap. Clermont, tu dois gagner tous les jours. Ils disent, on joue le match 10 fois, on le gagne 9. Mmh. Sauf que tu le perds. Mmh. Laval, tu joues 10 fois le match, tu dois le gagner 9. Sauf
attention,
que tu le perds.
Alors, on est à 3 minutes 30 de tunnel, là. Bravo,
pour ceux...
Pab.
Non, mais pour ceux qui viennent d'écouter Pab, j'espère que vous l'avez écouté quand j'essayais d'expliquer que les joueurs se défoncent pas assez et vont pas au bout et que les supporters demandent des explications justement à
non,
ces joueurs.
Non, je parle juste des supporters, moi.
Bah oui, mais c'est ça qui demande les supporters aux joueurs. Oui, tu viens de dire que ces joueurs se défoncent pas suffisamment. C'est exactement le reproche qu'ils leur font.
Il a sa revanche là.
Il va repartir sur le débat. Non, mais tu veux repartir sur le débat. Mais je suis d'accord avec toi.
Donc oui, il y a une responsabilité des joueurs.
Ils ont le droit de
zéro pour Simon.
Non, mais il y a une responsabilité des joueurs, Pab.
Ah oui, à un moment, il faut arrêter. Mais on a déjà parlé en off avec les joueurs. T'en as qui le disent. Florent Mollet, après, clairement, il le dit. Il dit, on est trop gentil. Il dit, sur certains trucs, on se fait balader. Sur le pénalty, si je me roule 4 fois plus au sol et si tout le monde va gueuler autour de l'arbitre, peut-être qu'il va voir les images, mais on ne le fait pas. Et en fait, c'est régulier comme ça. T'as une équipe qui est trop gentille.
Gourvennec, on en a parlé. Les joueurs aussi. On termine avec le mercato parce que ça a bougé encore ces dernières heures. David, je te donne la parole là-dessus. Merlin, courtisé par l'OM, Adjam est parti, Hudson aussi.
Oui, bah, alors, dans l'ordre, Hudson, Marquinhos ont quitté
Vasco
le club.
Vasco pour Hudson.
Marquinhos est retourné à Arsenal, donc le prêt a été stoppé. Et Adjam a signé, alors il devait signer au Standard finalement, il a signé au Young Boys de Berne pour 2 millions d'euros.
Il est parti, ça c'est
donc,
quand même incroyable.
Le FC Nantes avait acheté 1 million au PFC, finalement ils le vendent 2.
En comptant les bonus, je crois.
En comptant peut-être les bonus.
Avec les bonus.
Et donc, Merlin
pourrait partir. Alors ça, c'est le dossier de ces dernières heures.
C'est le dossier de ces dernières heures. Les deux clubs, enfin, le joueur et l'Olympique de Marseille sont d'accord depuis ce week-end sur un contrat de 3 ans et demi. Les deux clubs seraient tombés d'accord sur une indemnité de transfert aux alentours, avec les bonus, aux alentours de 12 millions d'euros. Mais le FC Nantes n'a pas trouvé son remplaçant. Parce que le FC Nantes n'a plus de latéraux gauche, puisque Adjam et Merlin pourraient partir. Donc ils veulent. Oui, je vais te laisser finir après.
Nantes, Philippe, qui est déjà en quête d'une doublure pour Quentin Merlin, accepte de transférer le titulaire du poste pendant le mercato d'hiver. Bah,
c'est pour ça qu'ils hésitent.
Pour l'instant,
c'est pour ça qu'ils hésitent.
Non, mais pour moi, il n'y a pas d'hésitation à avoir. C'est Quentin Merlin, tu as ton bon de sortie cet été, mais là, les 6 derniers mois, tu restes ici.
Bah ouais, mais sauf que là, Quentin Merlin, les échos que je peux avoir, le joueur, il est dans sa tête, il est déjà dans l'avion, voire déjà sur
la
cabine.
Mais moi, ce que je reproche, c'est d'avoir déjà ouvert la porte.
Mais après, ça va être
compliqué.
Tu peux
le faire descendre de l'avion aussi et lui dire attends,
ouais,
tu finis ta saison.
Il a déjà mis la ceinture, il attend là que ça décolle.
Première chose, et deuxième chose, le club envoie un très mauvais signal en ouvrant la porte à une négociation et indique aux joueurs qu'il peut déjà se projeter sur Marseille. Si dès le début le club dit à Quentin Merlin nous on te garde cet été, je pense que le joueur il fait pas ce cheminement dans sa tête.
Ah oui, si l'OM tu veux dire.
Si le FC Nantes dit clairement dès le début aux joueurs non, tu es invendable cet hiver, on a besoin de toi pendant 6 mois, ok pour cet été, je pense que le joueur, il n'est plus dans le même état.
T'as aucun joueur intransférable à Nantes.
En gros, journée décisive quand même sur ce dossier. Il est possible que si ce soir, il n'y ait pas de nouveau pour Quentin Merlin, eh bien, il soit bloqué et que l'Olympique de Marseille se mette sur le dossier
Truffert,
c'est fini.
Truffert, c'est fini. Rennes a dit non.
Truffert, c'est non. Et il y a une autre piste pour Marseille.
Voilà. On suivra en tout cas ce mercato et
il y a le nom
d'Aïdara.
Foot Mercato est sorti. Le nom d'Aïdara, c'est une vraie piste pour le FC Nantes. Il a 32 ans, il joue au RC Lens, vous devez le connaître, Aïdara, c'est un joueur connu en Ligue 1, c'est un joueur en tout cas sur lequel le FC Nantes est en train de bosser, mais c'est pas le seul, il y a d'autres pistes.
Le seul joueur formé au club s'en va, au mercato d'hiver avec la situation du club, je vous dis pas les supporters comment ça va réagir. Reims et Lens sont les deux matchs qui se profilent et ça va être compliqué pour toutes les raisons qu'on vient d'aborder. On s'intéresse, messieurs, à nos Africains, c'est parti.
Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle.
Allez, on prend des nouvelles de nos Africains, l'Égyptien Mostafa Mohamed, le Nigérian Moses Simon, le Camerounais Jean-Charles Castelletto et le Congolais Samuel Mutusami. Dans un instant, on aura un expert qui suit la Coupe d'Afrique des Nations pour RFI. Mais avant cela, on va d'abord parler des profils. Comme la terre
ronde. Julien Clerc.
Bien sûr.
Qui t'a arraché du monde.
Le titre
femme, je vous aime.
Regarde-moi de tes nouvelles, tu me feras la vie plus belle.
Tu me feras la vie plus belle.
Non, il vient de le dire. Donne-moi de tes nouvelles. C'est le titre. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, disait Alphonse de Lamartine. Je vois que tout le monde n'est pas allé à l'école. Alors quand il en manque 4, alors là, ça fait beaucoup.
Le mec qui prépare tous les trucs sur Google.
Non, je le savais. Pardonnez-moi, je le savais, mais a priori pas vous. Il y a des gens peut-être qui nous écoutent et qui le savaient aussi. Désolé. Mohamed, Simon, Castelletto et Moutou Samy. Quelle absence pèse le plus selon vous? On a posé la question via un sondage, David.
Alors, ouais, quelle absence est la plus pénalisante pour les Canaris? Il y a eu presque 2400 votes sur Twitter et Moses Simon, 54% des suffrages. Mostafa Mohamed, 23% des suffrages. Et Jean-Charles Castelletto, 22%. Je vais quand même dire Moutou Samy, mais il y a 1%.
1%. Bon, il est habituellement remplaçant désormais, c'est aussi pour ça. Je vais vous demander votre avis à chacun. Julo nous dit, il suffit de revoir les buts encaissés contre Clermont et Laval pour répondre à la question. C'est Castelletto qui manque le plus. Lulu le Nantais dit, Mostafa, le seul attaquant qui s'est cadré, qui s'est allé au bout de ses actions, à Rona des surfaces, c'est ça qui nous manque. Féliré lui dit, vu que l'équipe ne fait pas de différence collectivement, il faut des joueurs qui la font tout seul. C'est Moses Simon, le chaînon manquant. Et Itak Atik nous dit, quand ça va mal, les absents ont toujours raison. C'est trop facile. Sinon peut-être Moutou Samy dont la finition clinique nous manque cruellement. Je pense qu'il est un peu ironique notre ami. Philippe, tu aurais voté quoi à ce sondage?
Sans hésiter Simon, parce que c'est le meilleur attaquant de cette équipe. C'est individuellement clairement celui qui est capable de faire la différence. C'est le plus dangereux parmi tous les attaquants. Il a parfois un problème de régularité, mais je trouve que cette saison il a quand même été bon depuis le début. Il n'a pas eu trop de creux. Pour moi, sans hésiter, Simon. J'aurais mis Mohamed en deux, mais Simon sans hésiter.
Je vote Simon comme Philippe et pour les mêmes raisons, donc rien à ajouter. Pab, bah
pareil, Simon et Mohamed, je crois que c'est 60% des buts du FC Nantes cette saison. Donc,
Eh bien, moi, je vais être un petit peu original.
Oui, mais avoir des convictions, c'est pas forcément être original.
Non, si, je pense qu'il... Eh bien, moi, c'est Castelletto, parce que je trouve qu'en plus, il manque énormément. Je trouve en plus qu'il bonifie un peu Schomert. Je trouve que Schomert est mieux quand Castelletto est avec lui. Je dis bien un peu mieux. Parce que là, vraiment, je le trouve très fébrile. Donc, pour moi, c'est Castelletto. Et pour le FC Nantes, ça serait pas mal que le Cameroun soit éliminé. Et là, c'est ça, hein, c'est dans les heures à venir. Et il pourrait être là dimanche.
On va en parler avec Cédric de Oliveira qui suit la Coupe d'Afrique des Nations pour RFI. Bonjour Cédric.
Salut Simon.
Raconte-nous un petit peu comment ça va pour nos quatre Nantais à la Coupe d'Afrique des Nations. On a suivi certains de leurs matchs. On va peut-être commencer avec celui qui a marqué hier soir avec l'Égypte, Mostafa Mohamed. Il fait une CAN plutôt accomplie pour l'instant.
Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais, vraie constance pour Mostafa Mohamed. C'est simple, c'est 3 buts en 3 matchs. Hein. Lui qui est titulaire à la pointe de l'attaque de l'Égypte. Normalement, il y a un certain mot, Salah à sa droite pour lui donner des ballons, même si... Salah là, est blessé et ne sera pas là jusqu'en demi-finale si les Pharaons sont toujours là, donc c'est pas mal. Premier but face au Mozambique pour Mohamed, deuxième contre le Ghana. Effectivement, hier il a bien cru donner la victoire à son équipe en lobant le Ghana du Cap-Vert. Il en a même arraché son maillot. Bon, il a pris un carton jaune évidemment dans l'euphorie. Malheureusement, l'Égypte a encaissé un but, mais heureusement, le match du Ghana contre la Mozambique a qualifié les Pharaons pour les huitièmes de finale. Ce sera face au deuxième du groupe F pour Mostafa Mohamed et son équipe. Donc, le groupe F, c'est celui du Maroc, de la RDC, de la Zambie et de la Tanzanie.
Pape, sur Moses Simon, vas-y.
Oui, Moses Simon, c'est pareil. Alors, il a commencé sa phase aller. Elle est un peu bizarre parce qu'il sort après le premier match avant la 70e. Il entre en jeu à la 72e contre la Côte d'Ivoire, deuxième match. Mais par contre, il est titulaire et homme du match, je crois, contre la Guinée-Bissau avec la victoire à la fin. C'est ça, hein, Moses, c'est pas mal dans cette CAN.
Ah oui, Moses Simon, de toute façon, c'est un taulier des Super Eagles depuis plusieurs années. C'est quand même 58 sélections, 8 buts. Effectivement, il était titulaire contre la Guinée équatoriale lors du match nul 1 partout. Après, il a été remplaçant contre la Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment significatif. En tout cas, il n'a pas vraiment voulu sortir de l'équipe. C'est juste qu'il a beaucoup de joueurs offensifs, le sélectionneur nigérian. Et du coup, il tente des choses. Et hier, c'est lui qui a provoqué l'ouverture du score, le but contre son camp des Bissau guinéens. C'est lui qui a fait le centre et derrière ça a permis au Nigeria de mener 1-0. on va le revoir, hein, Moses Simon, notamment en huitième de finale. Et là, ce sera face au deuxième du groupe C. Ça sera pas facile. Ce sera soit face au Sénégal, soit face au Cameroun, soit face au Guinéen, selon les résultats du jour.
Le Camerounais Jean-Charles Castelletto, son état de forme, Pape, tu as un petit mot?
Bah non, mais JC, il a marqué. Alors, lui, il a marqué, mais c'est compliqué pour le Cameroun, là.
Ah oui, c'est vrai que c'est très, très compliqué. Lui, il a commencé latéral droit contre la Guinée. Ça n'a pas été forcément une réussite. Après, il a retrouvé la charnière centrale face au Sénégal. Les Camerounais, ils en ont pris trois. Défaite 3. Effectivement, Castelletto a quand même marqué de la tête. Donc,
le but match, de l'espoir,
on va dire. Ouais, le but de l'espoir, effectivement, à la fin, match à deux facettes. Mais c'est vrai que les Camerounais, ils sont au bord de l'élimination. Là, ils vont jouer tout à l'heure face à la Gambie. Il faudra gagner pour le Cameroun, pour espérer poursuivre leur route en huitième de finale.
Et alors, qui est susceptible d'être là dimanche dans les quatre Nantais? Est-ce qu'il y en a un qui peut être là dimanche prochain pour le match
Alors, ce sera pas Mostafa Mohamed, ce sera pas Moses Simon, ce sera peut-être Castelletto.
Voilà, Castelletto
si
pourrait
le Cameroun
rentrer.
Ne parvient pas à battre la Gambie, parce que et peut-être aussi Samuel Moutoussamy qui joue avec l'air.
Ouais, mais ils sont bien lancés aussi.
Eux, ils ont fait deux matchs nuls, donc face à la Zambie et au Maroc. Et Moutoussamy, lui aussi, hein, c'est un taulier de cette sélection des Léopards. Donc, il va forcément être, en tout cas, aligné demain face à la Tanzanie. Après, ils ont deux matchs nuls. Voilà, ça dépend. Tout peut arriver parce que s'ils perdent, ils sont complètement éliminés. Mais oui, il y a quand même moyen. En tout cas, même un match nul les qualifierait pour les huitièmes de finale.
Merci beaucoup, Cédric de Oliveira. C'était très sympa de prendre des nouvelles de nos Nantais avec ton regard sur place.
Merci, à bientôt.
Salut. À bientôt. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, les amis. Mardi prochain, on débriefera le déplacement des Canaries à Reims. Salut, David.
Salut.
Salut, Pab. Salut, Philippe.
Salut.
Sans contrôle, le podcast 100% digital.
Proposé par les rédactions de Ouest France, Presse Océan et It West.